c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Amen. Alors, c'est un texte qui parle de plusieurs pays, des pays un peu oubliés aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient de grands pays, puissants. Un peu comme si aujourd'hui on parlerait des États-Unis, de la Chine, ou que sais-je encore. Et il est dit que ces grands pays vont aller vers un tout petit pays, Israël, et qui vont dire à ce petit pays, c'est chez toi qu'il y a le vrai Dieu. Et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Formidable cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Ben, c'est un parallèle avec les nations du monde et l'Église. Aujourd'hui, toutes les nations du monde vont à l'Église et dans l'Église disent « C'est ici qu'il y a le seul et vrai Dieu. Alléluia !» C'était déjà une anticipation de ce que l'on vit aujourd'hui. Les premiers apôtres, quand Jésus est mort, ils étaient 12 à croire. Enfin, plus, un peu plus, mais ils n'étaient pas beaucoup à croire. Mais aujourd'hui, on croit en Jésus-Christ dans le monde entier. Et toutes les nations ont trouvé le seul Dieu dans l'Église, l'Israël de Dieu. Alléluia. Alors on continue, verset 15. « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. » Alors ça peut vous étonner. « Tu es un Dieu qui te cache. » Ben c'est vrai, dans le Nouveau Testament, c'est écrit que Dieu est invisible. Bon, ça, on le savait. Dieu est invisible. Et non seulement il est invisible, mais la Bible dit qu'on ne peut pas le voir sans mourir. Et ça se comprend. Alors, j'ai pas pris le temps de regarder, j'aurais dû. Mais vous savez qu'à des milliers, peut-être des milliards de kilomètres du soleil, si vous passez en vaisseau spatial, si vous en avez un dans votre garage, je ne sais pas, eh bien vous arrivez près du soleil, vous êtes brûlé. Vous ne pouvez pas vous approcher du soleil. Mais Dieu a fait les milliards de soleils dans la galaxie. On ne peut pas s'approcher de Dieu et vivre. Parce que Dieu est grand. Il est majestueux. Il est invisible. On ne peut pas s'approcher de Dieu sans mourir. Alors c'est compliqué. Vous pouvez vous dire, mais alors, c'est impossible. Et savez-vous pourquoi Dieu est invisible? C'est pour comparer, on lira le verset après, avec les autres religions qui avaient leurs idoles. Les dieux des fausses religions se voient. C'est des idoles, des statues de Bouddha. Ou alors en Inde, il y a des centaines de dieux, avec des trompes, avec toutes sortes de choses. Et on les voit. Mais pourquoi Dieu, on ne peut pas le voir même matériellement? Parce qu'on ne peut pas le représenter. Parce qu'il ne peut pas être comparé à quoi que ce soit de connu. Le Dieu de la Bible interdit les statues, les idoles, les crucifix, les images. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans une image. Parce qu'il dépasse tout ce qu'on peut décrire. Dieu est invisible parce qu'il nous dépasse complètement. Et on ne le représente. Dans cette salle, vous n'avez aucune représentation. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on trouve le vrai Dieu. Les faux dieux ne se cachent pas. Il se montre. Le vrai Dieu est un Dieu qui se cache. On continue notre lecture. Verset 16. Ils sont tous honteux et confus. Ah non, mais c'est bon. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont tous avec ignominie, les fabricants d'idoles. Amen. Alors, il y a le vrai Dieu qui se cache, qui se trouve en Israël de Dieu. Et puis il y a les faux dieux avec des statues, des images. Mais vous savez ce qu'on vient de lire? Ce sont des fabrications. C'est l'homme qui fabrique Dieu, avec un petit dé. L'homme fabrique les idoles. Les religions sont fabriquées par l'homme. Ce sont des systèmes d'hommes. Mais pas l'évangile. Le véritable Dieu ne peut pas habiter même dans un temple, c'est écrit. Il n'est pas enfermé dans une religion. Tout ça, ce sont des fabrications humaines. Il faut bien plus. Ce n'est pas là qu'on le trouve. On continue. Verset 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Amen. Il y a là le nom de Dieu, l'Éternel. Alors, un jour, un homme a rencontré Dieu et a dit, « Comment tu t'appelles ?» Parce qu'il dit, Dieu l'a envoyé quelque part, mais il ne connaissait pas grand-chose de Dieu. Et il dit, « Mais comment tu t'appelles ?» Et Dieu répond, « Je suis celui qui suis. L'Éternel est mon nom. » Dieu est Dieu parce qu'il a toujours existé et qu'il existera toujours, qu'il est avant toute chose et après toute chose. Son nom, c'est l'Éternel. Et parce qu'il est l'Éternel, il peut donner un salut, on l'a lu, un salut éternel. Vous comprenez bien cet après-midi, ce qui est en jeu, c'est votre éternité. Il s'agit d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. C'est la promesse de l'Évangile. Et il n'y a que le Dieu éternel qui n'est pas fabriqué dans une religion qui peut vous la donner. Amen. Verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a enfermée, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Amen. Dieu est le Créateur. Tout ce qui est visible vient de l'invisible. Difficile à comprendre ça. Moi qui étais athée, j'ai du mal à comprendre. En fait, nous on est attaché à ce qu'on voit, mais en réalité, ce qui est plus vrai, c'est ce qu'on voit pas. Parce que ce qui a existé avant tout ce qu'on voit, c'est Dieu qui est invisible. Mais tout ce qui est visible, c'est Dieu qui l'a créé. Donc non seulement Dieu n'est pas fabriqué par l'homme, mais c'est Dieu qui a créé les hommes. Alléluia. C'est Dieu qui a fait la terre. Et la Bible dit qu'il est le bienfaiteur de cette terre. Il a fait qu'il y ait plein d'habitants. C'est un Dieu de bénédiction. Dans la Genèse, il a béni l'être humain pour qu'il se multiplie. Gloire à Dieu. Vous savez combien d'êtres humains il y a aujourd'hui sur la planète? J'ai regardé, donc 7,8 milliards, c'est une estimation. 7,8 milliards. C'est prodigieux ce que Dieu fait. À partir d'un homme, Adam, 7,8 milliards. C'est l'œuvre de Dieu, ça. Alors je sais, il y en a qui disent, « Oh, il y a trop de monde, on ne pourra jamais nourrir tout le monde. Hein. Alors il faut des guerres. Oh, » Moi, je crois que l'homme peut se multiplier. Dieu a fait une nature, une création qui peut vraiment faire de belles choses si seulement les êtres humains suivaient le Seigneur. Je ne sais pas comment, mais le Seigneur ferait que tout le monde soit nourri. Alléluia. Allez, on continue. On est au verset 19. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Moi, l'Éternel, je dis ce qui est vrai. Je proclame ce qui est droit. Amen. Alors là, il y a quelque chose de positif. Dieu se cache, mais Dieu parle. Amen. On vient de le lire. Je n'ai pas parlé en cachette. Dieu n'entretient pas des secrets. Il y a des religions à mystère, on appelle ça. Des religions à mystère. Rien que de parler comme ça, des gens se disent, ah, c'est quoi ? Des religions à mystère. Alors, il y a des initiations secrètes, jamais personne ne le sait, etc. Dieu n'est pas ni secret ni mystérieux. La Bible dit que Dieu est lumière. Alléluia. Et il a parlé. Alors voilà comment on peut rencontrer Dieu. Peut-être pas en le voyant, parce que c'est par la foi. Mais peut-être en l'entendant. Parce que Dieu parle. Nous lisons quoi ? Nous lisons sa parole. Dieu parle,
alléluia,
dans la parole de Dieu. Et d'une autre façon, nous le verrons. Comment Dieu a parlé très clairement, sans secret, en envoyant Jésus. Jésus a tout dit.
Alléluia.
Jésus, il était avec Dieu, il était Dieu. Il est venu pour nous parler de ce que personne ne connaissait, puisque personne ne voit ni ne peut s'approcher de Dieu. Mais lui était auprès de Dieu, il était Dieu. Il est devenu un homme pour tout dire. Dieu a parlé par Jésus-Christ.
Alléluia.
Il a parlé clairement, sans secret. Et quand vous lisez les évangiles, on apprend des choses extraordinaires. C'est Jésus qui a le plus parlé de l'enfer, par exemple. C'est étonnant, hein? Parce qu'il est venu nous avertir. C'est Jésus qui a beaucoup parlé aussi des richesses, de leur vanité. Jésus a beaucoup parlé de son Père. C'est lui qui nous a enseigné que Dieu était un Père. C'était son Père. Mais encore tellement d'autres choses. Si vous voulez, lisez l'Évangile. Et vous connaîtrez Dieu qui ne se voit pas, mais qui a parlé par Jésus-Christ.
Alléluia.
Et il a tout dit clairement en lui. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Toute la vérité a été dite en Jésus-Christ.
Alléluia.
Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Et Dieu se laisse trouver. Verset 20. On continue. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Alors, vous avez vu l'absurdité ici, vous comprenez dans ce verset 20 pourquoi l'homme de Dieu dit ça. Ils n'ont pas d'intelligence, parce qu'ils portent leur Dieu. C'est pas intelligent. Vous avez déjà vu, il y a des processions, hein, parfois. Et alors, il y a des gens, et puis ils ont leur Dieu, là. Mais c'est pas intelligent. Un Dieu qu'on doit aider à marcher, c'est pas un Dieu. C'est une tromperie. C'est faux. Comprenez? Vous savez, dans notre vie, des fois, on se rend pas compte. Mais on porte beaucoup de choses. Et on vit pour elles. Mais en fait, c'est du vent. C'est nous qui portons tout. Votre passion. Parce que les idoles dans la Bible, c'est pas que des statues. Les idoles dans la Bible, c'est parfois vos passions. Que vous entretenez vous-même, que vous portez sur vos épaules. Mais ça vous mène où à la fin? Certainement pas dans la vie d'abondance du Seigneur. Parfois ça vous amène dans le péché, dans le regret, les remords. Vous avez plus votre paix et vous donnez beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts pour votre passion. Vous la portez, mais elle ne vous apportera jamais rien. C'est un faux Dieu, c'est du vent, elle va vous perdre. Alors réagissez, ne soyez pas absurde, stupide, réagissez. Quelque part, pour se convertir, il faut avoir une intelligence nouvelle.
Alléluia.
Et ouvrir les yeux et dire, mais je suis bête depuis des années, je suis bête. C'est toi, Seigneur, le seul vrai Dieu. C'est de toi que j'ai besoin.
Amen.
Verset 21. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Amen. Alors, il est question d'une prédiction ici. Dans la Bible, le premier prophète, c'est Dieu. C'est lui qui, dès après la chute, a annoncé la venue de Jésus, qui triompherait
de Satan. Alléluia. Et depuis quasiment la première page de la Bible, Dieu prédit, parce que Dieu sait tout d'avance. Et c'est ça qui fait de lui la preuve, entre autres, qu'il est vraiment Dieu et le seul. Il n'est jamais dépassé ou surpris. Il sait tout par avance et il le dit. Mais dans ce passage, de quelle prédiction s'agit-il ? Eh bien, au début du chapitre 45, ce même chapitre, tout commence avec la prédiction qu'un roi allait venir et qui s'appellerait Cyrus. Cyrus, c'est un roi de Perse qui a vraiment existé. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand Ésaïe dit « Dieu prédit à l'avance, dès le commencement », et c'est comme ça qu'on sait que c'est Dieu, ben vous savez quand est-ce qu'Ésaïe a prophétisé ça par rapport à ce roi Cyrus qui est venu ? Il l'a dit, je vais arrondir, il l'a dit 180 ans avant que ça n'arrive. C'est tellement étonnant, une telle précision, c'est assez rare dans la Bible quand même, un homme cité de son prénom pratiquement 2 siècles avant qu'il vienne. C'est tellement fort qu'après il y en a qui ont dit « Oh ouais, mais dans ce chapitre-là, on l'a écrit après. » Non, on ne l'a pas écrit après. On a des manuscrits qui nous montrent bien que ça a toujours été écrit comme ça. Mais parce que Dieu veut montrer que quand il parle, il dit la vérité. Mais il y a beaucoup plus que Cyrus. Pourquoi cette prophétie, je vous l'ai dit, c'est rare dans la Bible, 200 ans avant, un prénom cité, c'est rare. Pourquoi alors ? Et ce Cyrus, il n'y a plus personne qui le connaît, n'est pas très important au fond dans l'histoire de l'humanité. Mais pourquoi alors ? Parce que ce Cyrus est une figure de celui qui allait venir, Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Cyrus, c'est le seul roi non-croyant qui est appelé loin. Et vous savez ce que veut dire le Messie loin, le Christ loin. Pas loin, L-O-I-N, hein. L-O-I-N-T. Celui qui a l'onction du Saint-Esprit. Et là, c'est pas 200 ans avant. C'est ici 700, plus de 700 ans avant. Et même, comme je vous l'ai dit, dès le début de la Genèse, c'est noté. C'est plus de 1000 ans avant. C'est depuis le... C'est pour ça que cette prophétie dit, je l'ai dit dès le commencement. Dès le commencement, Dieu a prédit Jésus-Christ. Jésus-Christ est la preuve que Dieu est le seul vrai Dieu, parce qu'il l'avait dit et il est venu. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut croire en Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous connaîtrez le seul vrai Dieu qui l'a annoncé. Amen. Et avec une précision, sa naissance, son enfance, son ministère, sa mort, sa résurrection, sa gloire, son retour, tous les aspects du Messie, pour tous les aspects du Messie. Il y a une prophétie dans l'Ancien Testament qui s'accomplit dans le Nouveau Testament quand Jésus est venu. Alléluia. Alors on continue, verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers moi. En fait, ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la conversion. La conversion, c'est changer de direction. C'est à un moment donné, vous allez dans une mauvaise direction, vous vous rendez compte que vous vous trompez, faites demi-tour et vous partez dans la bonne direction. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu cet après-midi. Comprenez, cet après-midi, vous êtes dans la mauvaise direction. Vous vous êtes trompé. Et au fond, le péché, c'est rater la cible. Au fond, le péché, c'est se tromper. vous vous êtes trompé. Mais c'est bête de mourir parce qu'on ne veut pas reconnaître qu'on s'est trompé. Il n'y a qu'à reconnaître que vous vous êtes trompé et de demander pardon au Seigneur, de vous repentir de vos péchés et de vous tourner vers lui, c'est-à-dire de vivre pour lui maintenant. Alléluia. C'est simple. Ça peut se faire maintenant. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez sauvés. Alléluia. Parce que Dieu ne va pas vous reprocher que vous vous êtes trompé. Dieu va vous pardonner par le sang de Jésus. Alléluia. Verset 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Amen. Alors les chrétiens reconnaissent ce verset. J'espère. Ce verset est cité dans Philippiens et il est appliqué à Jésus-Christ. Vous essayez de l'entendre, je vais le lire. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, donc Jésus, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et cette prophétie d'Ésaïe qui dit que le Dieu, le seul et l'unique, un jour, tout le monde s'agenouillera devant lui, est appliqué à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'est pas qu'un prophète, qu'un envoyé de Dieu, il est le Seigneur. Il a été fait Seigneur à la gloire de Dieu. Et devant un Seigneur, on se met à genoux. Et un jour, tout le monde s'agenouillera devant lui. Même ceux qui n'ont pas cru en lui. On aura tous rendez-vous avec Jésus-Christ. Ceux qui sont morts aussi, nous serons tous là. Et quand Jésus-Christ présidera le jugement dernier, personne ne sera debout. Personne ne pourra dire quoi que ce soit. Toute bouche sera fermée. Et on posera le genou. Et on dira, c'est lui le Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu le Père. Alors, pourquoi pas le faire dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard? Tu peux t'agenouiller et louer le Seigneur Jésus, et ça, tu seras sauvé. Mais ceux qui plus tard s'agenouilleront et devront reconnaître, ça sera pour leur perte. Aujourd'hui, c'est pour votre salut. Dieu soit béni. Verset 24. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. C'est difficile à comprendre, ça vous trouvez pas? C'est curieux, on se dit, il y a des gens qui vont venir vers Dieu, qui sont rebelles, et ça va mal se terminer pour eux. Alors on a envie de se dire, mais alors pourquoi ils y vont si ça va mal se terminer pour eux? Ben, tout simplement que quand Dieu convoque, on ne peut pas faire autrement que d'y aller. C'est tout simple. Au jugement dernier, quand Dieu convoquera les hommes, il n'y a personne qui dira, moi je n'irai pas. Ah non, non, parce que Dieu est puissant. Vous savez comment je me suis converti, moi? Dans ma chambre, Dieu m'a visité. La veille, j'étais athée. Et quand Dieu m'a visité, cette phrase, il faut que tu rencontres Dieu. Mais la veille, j'ai été un blasphémateur. Mais quand Dieu m'a visité, me suis réveillé, j'ai pris ce qui traînait à terre, me suis habillé, et direct, je suis allé chez un chrétien. Et quand Dieu agit, personne ne peut lui résister. Alléluia. Vous voyez, un jour, Dieu convoquera tout le monde. Et les rebelles, malheureusement, ça se terminera pas bien pour eux. Parce que, il faut vous le dire, le châtiment éternel est une réalité. Tu es peut-être rebelle. N'attends pas ce moment-là où tu seras vaincu. Mais aujourd'hui,
Ouvre ton cœur. Laisse-toi attirer par le Seigneur. Et là, tu seras sauvé. Gloire à Dieu. Allez, le dernier verset, le verset 25. Par l'Éternel seront justifiés. C'est fou hein, de lire ça dans l'Ancien Testament. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Amen. Amen. La Bible enseigne très clairement dans le Nouveau Testament que Jésus a versé son sang pour justifier tous ceux qui croient en lui. Il est ressuscité pour notre justification. Ça veut dire quoi, ça? La justification, c'est comme un acquittement. Ça veut dire que, quelles que soient les choses que vous ayez faites, écoutez-moi bien, même des choses graves, des choses très graves, des choses très sales, quoi que vous ayez fait, si vous vous confiez dans le Seigneur, il lave tout ça et il vous justifie. Ça veut dire que vous devenez injuste. Amen. Vous le croyez? Croyez-le. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un pécheur sale. Mais si vous croyez, vous pouvez être un pécheur lavé. Justifié. La question n'est pas de savoir ce que vous avez fait. Et ça ne me regarde pas non plus. Ça, il y a des choses dans votre vie, il n'y a que Dieu qui le sait. Et c'est mieux comme ça, ne le dites pas aux autres. Mais avec Dieu, repentez-vous. Reconnaissez ce que vous êtes. Demandez-lui pardon et croyez vraiment, je vous le dis de sa part. Vous serez pardonné de tout. Vous serez justifié. Et même si le diable viendrait et dirait, elle a fait ça! Elle a fait, c'est grave! Le Seigneur Jésus serait là, il dirait, dehors, tu n'as plus rien à dire. Je suis son défenseur. Quelque part, son justicier. Je lui fais justice. Alléluia. Dieu soit béni. Oui, alors c'est vrai, nous avons lu que Dieu se cache, mais il a envoyé Jésus, qui lui est la véritable image de Dieu. Il suffit donc de se tourner vers Dieu, de croire en Jésus-Christ en reconnaissant vos péchés pour que vous soyez justifiés et ayez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. On prie ensemble. Bénis Seigneur les uns et les autres. Bénis, agis par ton esprit dans un